Canal Académie. Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Je suis face à Tadashi Tokieda. Tadashi, tu es de retour, puisque je t'ai déjà interrogé il y a 2 ans.
Même. En effet, oui, sur les gouttes qui tombent. Voilà.
Exactement. Tadashi, tu es physicien, mathématicien, un peu tout ça.
Oui, un peu tout ça, oui.
Dans cette série de podcasts, j'interroge un mot de science, qui est souvent mal compris par le public général. Dis-moi, quel est le mot que tu as choisi ?
Avant le mot, une petite anecdote. Dans un musée des histoires naturelles, c'est un guide qui montre un immense squelette de dinosaure aux visiteurs. Il dit, ce dinosaure, devant vous, a 150 millions 15 ans. Ah bon, c'est très précis, monsieur le guide. Oui, c'est que j'ai un esprit rigoureux. C'est que lorsque j'ai commencé à travailler ici il y a 15 ans, on m'a assuré que ce dinosaure avait 150 millions d'années. Le mot que j'ai choisi, c'est le mot de rigueur.
Rigueur.
Qu'est-ce que c'est que la rigueur, quand même ? Bon, on peut parler de la rigueur d'un hiver.
C'est un mot qui fait un peu peur.
Voilà, qui fait peur, exactement. Donc, par exemple, avec la rigueur d'un hiver. Bon, c'est quelque chose qui n'est pas gentil, qui n'est pas doux, qui ne pardonne pas. J'ai rencontré, par exemple, à une école française que j'ai fréquentée, un professeur de physique qui avait très soigneusement préparé son cours et qui dictait son cours phrase par phrase, mot par mot, virgule par virgule. Et on disait qu'il faisait un cours de rigueur exemplaire. Mais là, je pense qu'on entendait par ce mot une méthode préparée de façon intransigeante, presque, au point d'être pointilleux. Les mathématiciens parlent beaucoup de rigueur, mais souvent, bon, je caricature pour être un peu amusant, en mathématiques, la rigueur, ça veut dire pouvoir tracer une ligne, une chaîne non brisée de démonstration, une espèce de généalogie qui remonte jusqu'à la théorie axiomatique des nombres, par exemple, disons. Donc, est-ce que c'est rigoureux, est-ce que c'est pas rigoureux, c'est un peu ça.
Bon, dérouler un fil qui part du début et qui va jusqu'à l'affirmation.
Bon, c'est une façon d'assurer, bien sûr, le bien fondé d'un énoncé, mais c'est pas la seule, bien sûr. J'opère entre deux mondes, deux communautés, des physiciens et des mathématiciens. Des mathématiciens tels des gorilles qui se tapent sur des poitrines en disant « je suis très rigoureux ». Et tandis que les physiciens tapent sur les poitrines en disant « je suis pas rigoureux, ils sont très fiers. Tout ça, c'est un peu puéril. Parce que qu'est-ce que c'est que la rigueur ? Bon, dans toutes ces acceptations, c'est bien, c'est ce qu'on entend. Hein, chacun entend par rigueur ce qu'il veut entendre. Mais pour moi, la rigueur, c'est, disons, une collection d'astuces ou de bonnes pratiques que l'humanité a développées pour réduire au minimum le risque de se berner. Donc, chacun a sa rigueur. Dans sa profession, dans sa discipline, dans son métier. Hein, souvent, ce sont des métiers techniques, mais il faut une rigueur. Par exemple, ben, les mathématiciens travaillent avec une certaine rigueur, les physiciens doivent avoir leur rigueur. Un médecin, bien sûr, un barbier.
Mais à condition que des collègues de la même profession puissent être d'accord.
Comment réduire au minimum le risque de se berner ? Là, je commence à réfléchir, parce que pourquoi ne pas vouloir se berner ? Parce que dans le jeu, comme dirait Saint-Exupéry, les grandes personnes dans notre société, moi je suis une grande personne, Étienne, toi une grande personne, veulent berner tout le monde, n'est-ce pas ? Parce qu'on s'adonne à ce jeu social de vanité, de pouvoir, voilà. Et on croit souvent dans cette immense organisation qu'on appelle société, on croit souvent que bon, ce qu'il faut, c'est de dominer les autres humains.
Juste un commentaire pour nos auditeurs, tu es professeur aux États-Unis, que tu viens de dire, résonne particulièrement avec
les actualités. Bon. Et pourquoi donc ne pas se berner ? C'est parce que je pense que même si on croit à ce jeu de la société, quand même, ce serait bien de temps en temps de connaître le maximum de vérité face à la nature. Ce que vous faites avec les autres humains, c'est votre affaire personnelle, qui relève de l'éthique, qui relève de questions pratiques. Mais moi, c'est vrai, je ne suis pas très éthique, je peux être méchant envers les autres personnes, mais je veux être quand même honnête envers moi-même. Donc l'enjeu, c'est de l'honnêteté privée, hein, parce que j'ai ma vanité, mais privée envers soi-même. Et là, je ne veux pas me berner, je veux connaître la vérité. Bien sûr, la vérité est souvent inaccessible, mais comment réduire au minimum le risque de me berner? C'est ça la rigueur. Donc chacun veut être honnête envers soi-même, et c'est ça le plus difficile.
Mais ce que tu veux dire quand même, c'est que cette rigueur doit être, si elle est individuelle, elle doit être aussi en cohérence avec la rigueur des gens qui sont
bien
autour
sûr
de toi.
Mais il faut trouver des gens qui veulent aussi être rigoureux dans ce sens. C'est-à-dire que rigoureux, non pas, bien sûr, donc c'est une pratique professionnelle aussi, donc non comme des automates, suivre certains types de comportements, mais se rappeler toujours que c'est un protocole, disons, pour réduire au minimum le risque de se berner. C'est ça la rigueur. Donc, dans chaque situation, dans chaque pratique, dans chaque problème, est-ce qu'on est rigoureux? Est-ce qu'on s'entend pour être rigoureux? C'est ça l'important.
Alors, je reprends ton exemple initial. Est-ce que le professeur qui impose à ses élèves de prendre note, est-ce que c'est une bonne pratique pour apprendre aux élèves à se fabriquer leur propre rigueur?
Ça dépend bien sûr du contexte, ça dépend du but qu'on se donne, mais prendre les notes un peu à l'aveuglette, ligne par ligne, virgule par virgule, est-ce que ça vous cultive l'esprit qui cherche à se détromper? La réponse est non, parce qu'on tombe dans une espèce d'hypnose. En fait, on ne s'aperçoit de plus rien. Ce qu'on est en train de copier, recopier sur le papier ne fait pas de sens. Comme un automate, on continue à écrire.
Alors, je vais poser la question différemment. Est-ce que la rigueur s'apprend?
La rigueur s'apprend. Je pense que la rigueur peut s'apprendre, mais je dirais non pas du haut en bas, mais en se trompant, et en se brûlant les doigts de temps en temps. Ah ! Pour pouvoir apprendre la rigueur, dans le sens où j'entends ce mot, il faut être prêt à dire « je me suis trompé ». Lorsque j'ai commencé à assister à quelques cours à Tokyo, j'ai été ahuri, parce que je suis allé un jour, il est maintenant décédé, M. Wada, il faisait un cours d'algèbre assez élémentaire, il a écrit au tableau, et un élève a dit « monsieur, je pense qu'il y a une erreur là ». Il a regardé l'élève, il a regardé le tableau, il s'est dit « ah oui, vous avez raison, j'ai tort », et il a effacé, il a continué. Moi, dans une autre classe, avant, je n'avais jamais entendu un grand professeur, une autorité, dire si simplement, si bêtement à un élève « ah oui, vous avez raison, moi je me suis trompé ». Parce qu'il y a quelque chose de plus important auquel nous travaillons.
Ceci me rappelle l'anecdote de Henri Lebègue qui assistait au cours de Gaston Darboux sur les surfaces développables, dans lequel Darboux démontrait que les surfaces développables sont réglées, contiennent des droites. Et on raconte que Lebègue a levé la main et dit « professeur, ça n'est pas vrai, puisque mon mouchoir est développable, puisqu'il a été plat encore ce matin, il est dans ma poche pliée, et mon mouchoir ne contient pas de droite ». Et là, c'était le début d'une théorie, on peut dire, des surfaces irrégulières, on n'a qu'à dire. Et ce qui est assez remarquable, c'est que Darboux a pris ça très au sérieux et il a fait publier le premier article, l'un des premiers articles de Lebègue, dès le lendemain au compte-rendu de l'Académie des sciences. Hein. Voilà, donc il a reconnu son erreur.
Je pense qu'on peut apprendre les gueules, mais c'est peut-être qu'il y a une question de tempérament et aussi une ouverture d'esprit qui vous prépare à être rigoureux.
M'inquiète un peu dans ton discours, si je peux me permettre, c'est qu'on a l'impression que tu es en train de promouvoir le fait que la rigueur de l'un peut ne pas être la rigueur de l'autre.
Je mets l'emphase non pas sur, pour l'instant, l'accord entre deux humains, parce que je pense que c'est ça ce qui manque le plus plutôt que l'accord entre humains. Si oui ou non, vous avez la possibilité de dire que tiens, ce que j'ai fait, c'était faux. Et ça, c'est très dur. Et surtout pour les grandes personnes, encore une fois, comme dirait Saint-Exupéry, parce que nous sommes devenus des grandes personnes en accumulant des autorités, en faisant semblant de ne pas nous tromper, parce que se tromper en public, c'est très dangereux. Et donc, on a tendance à cacher ses erreurs, à rafistoler, disons plutôt, ses erreurs, mais ça commence à éroder la vie privée aussi. Même face à moi-même, je commence à ne pas admettre, ne pas reconnaître que j'ai fait une erreur. Dès que l'esprit commence à se refermer, il n'y a plus possibilité de développer la rigueur. Bon, après, bien sûr que dans de telles actualités, dans une telle culture, à une telle époque, il peut y avoir un problème d'ordre social. Mais je commence vraiment à initio, à un niveau plus personnel, parce que je pense que c'est ça qui touche, qui est vraiment une question plus éternelle. C'est-à-dire que est-ce que nous pouvons être rigoureux, mais au sens, encore une fois, où je l'entends, donc est-ce qu'on peut cultiver, et ça peut être un procédé joyeux, on peut être fier de sa compétence technique, cet ensemble de protocoles qui nous aide à réduire au minimum le risque de nous berner.
Est-ce que toi, dans ta carrière, tu as fait des erreurs dans une contribution mathématique ou physique ?
Ah oui. Tu veux que je te donne un exemple public ? Oui, si, si.
On va transformer cette interview en un confessionnal.
Oui, voilà, exactement, exactement. Donc, il y a une espèce de grille que j'imagine. Oui, voilà.
Alors, ici commence une discussion probablement trop technique pour que je la laisse dans ce podcast. Tadashi parle d'un problème de physique qu'il avait résolu mathématiquement, pourrait-on dire, mais sans s'attacher à la réalité physique. Des contestations sont apparues chez des collègues et Tadashi a dû reconnaître que son résultat aurait pu être mieux présenté. Bref, une erreur. Même si Tadashi rechigne quand même à dire que c'était une erreur.
L'une des manières d'apprendre la rigueur, c'est d'être témoin de professeurs ou de gens qui possèdent ces rigueurs et qui reconnaissent leurs erreurs. Oui. Parce que l'élève, voyant le professeur reconnaître son erreur, apprend la rigueur.
Et ça cultive un grand respect envers ce professeur. Quelqu'un qui ne fait pas d'erreur, c'est peut-être, enfin, ça impressionne, mais quelqu'un qui fait d'erreur la reconnaît et, en fait, sort de son propre trou, ça c'est quelque chose, c'est vraiment impressionnant.
Ce qui m'intéresse dans ce que tu dis, c'est le caractère personnel de la rigueur. J'avais toujours en tête l'universalité de la rigueur.
Et justement, c'est pour ça que je me suis servi d'un verbe réflexif, ne pas se berner, pour éviter de se berner.
Merci beaucoup, Tadashi. Le temps a coulé.
En effet.
Il y a une question que je pose à tout le monde. Et je suis sûr que tu vas me dire quelque chose de...
Et après, j'aurai droit à un autre café ?
Oui, oui, tu auras droit à un autre café. Je vais poser la question suivante. Dans mes podcasts, j'intercale de la musique.
Ah !
Et à chaque personne que j'interroge, je leur demande quelle est la musique qui, selon eux, est plus appropriée pour leur discours.
Ah ! En musique, je ne suis pas très éduqué musicalement. J'ai fait beaucoup d'expériences de ce genre. Donc, j'ai des amis musiciens vraiment de très haut niveau et ils ont la gentillesse de me jouer de temps en temps. Et après, ils disent « Ah oui, j'ai fait plein d'erreurs, c'était terrible, j'ai mal joué, excuse-moi, c'est impardonnable. » Alors que moi, j'étais dans la liesse, mais c'est très beau, enfin, c'est une expérience. Et en fait, j'ai des expériences réciproque, c'est-à-dire que quand je fais des conférences, après, c'est vrai que je suis un peu sans vergogne, mais quand même, je reconnais, oh là là, je me suis gouré, je me suis mis le doigt dans l'œil, alors que les gens sont enchantés. Alors, je pense qu'une musique, ça ne vient pas à l'esprit tout de suite, où on peut jouer de façon très belle, alors que l'interprète...
Donc tu voudrais une musique où on peut faire des erreurs sans que toi ou moi s'en rende compte.
Voilà.
Ah, c'est bien. Parce qu'en général, les gens que j'interroge me disent « Oh, tu vas mettre du Bach. » Mais Bach, c'est justement dès qu'il y a une erreur.
Voilà, exactement.
Oh, ça
exactement.
Voilà,
ça,
voilà.
Ça, ça
voilà.
détonne.
Voilà, très bien. Donc une musique pas trop rigoureuse.
Non, la musique où la rigueur tient à la personne de l'interprète. Où on peut être aussi rigoureux qu'on veut, mais c'est un choix personnel et c'est un ensemble d'astuces personnelles. Mais c'est une étude de, tu entendras ce mot bien sûr, entre mathématiciens, la stabilité structurelle de la musique.
Intéressant. La différence est consciente chez les musiciens ?
Alors, je ne sais pas s'ils veulent, mais après avoir interprété, comme j'ai dit, j'ai assisté à beaucoup d'expériences où mes amis musiciens disent « Ah oui, j'ai fait des erreurs », ou d'autres qui disent « Non, 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 c'était bien ».
J'ai demandé à un musicien de l'Académie des Beaux-Arts ce qu'il pensait de cette question. Et il m'a raconté qu'un copiste, n'arrivant pas à lire une note dans une partition de Pierre Boulez, avait demandé des explications. Et Pierre Boulez avait répondu « Mettez ce que vous voulez, ce n'est pas très important ». Vrai ou pas vrai, je n'en sais rien. Mais je me suis amusé à vous faire entendre des extraits de la deuxième sonate pour piano de Boulez, dans lesquels je me suis permis, horreur, de modifier des morceaux un peu au hasard, parfois une quinte plus haut, parfois une tierce plus bas. Alors, serez-vous détecter ces moments de lèse-majesté envers la musique de Boulez ?
Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences. Canal Académie.